bonjour. Une nouvelle émission de Et si on en parlait, avec toujours la belle Léna dans le coin, avec un stagiaire dont j'ai oublié le prénom, Julien. Voilà, Julien. Et comme notre invité est déjà venu il y a quelque temps, c'est Jean-Luc Gosse. Bonjour.
Bonjour.
Il y a longtemps que tu es venu quand même.
Bah écoute, oui, mais je ne suis pas fichu de me souvenir quelle année.
Ouais, ça fait une paye. Alors donc, tu es artiste peintre.
Voilà.
Ben là, tu m'as marqué plein de choses. Décorateur, oui. Trompe-l'œil, anamorphose, et entre parenthèses, après, illustrateur visuel pour
les milieux métiers du spectacle.
Voilà. D'accord. Et tu es basé, donc, comme pas mal de gens, sur Limogne, par là ?
Vers Beauregard.
Enfin, ouais, à Beauregard. Après Limogne, donc.
Voilà, après Limogne.
Alors, qu'est-ce que tu fais depuis, donc,
qu'on ne s'est pas vu, depuis qu'on ne s'est pas vu, j'ai continué... Je lâche pas les pinceaux comme ça.
Bien sûr.
Donc, je fais mes créations de peinture à l'huile et quand on m'en donne l'occasion, je fais ce que je préfère, c'est-à-dire des grandes peintures murales, d'accord, des trompe-l'œil, des anamorphoses, qui en fait, c'est la plus compliquée des trompe-l'œil, c'est une image déformée. Et de temps en temps, voilà, je suis aussi affichiste pour les gens du théâtre ou les musiciens et...
Quelle est la différence entre les peintures murales et les tags ?
Ah, le tag, bah, c'est un peu la peinture de la génération après moi qui se pratique surtout à la bombe.
À la bombe.
Moi, je pratique pas la bombe, je peins à l'ancienne.
À l'heure actuelle,
pinceau.
C'est tout à la bombe.
Oui, oui. Ça dégage.
Tout à fait, ça dégage. Hein.
Non, moi, je peins au pinceau, comme j'ai depuis toujours, et je fais des grandes peintures extérieures et intérieures aussi pour des particuliers, des grandes décorations très réalistes.
Voilà, c'est hyper réaliste quand même ce que
c'est
tu fais quand même.
C'est pas loin de l'hyper réaliste, oui.
Donc Dali est un peu dans l'idée, non ?
Dali avait une technique très réaliste, hyper réaliste, mais surtout surréaliste.
Oui, surréaliste. Mais enfin, voilà. Moi, je connais des tableaux quand même qui étaient
voilà,
comme ouais. Le Christ, par exemple.
Oui, moi, oui, souvent on donne en
référence. Quand même...
C'est très très bien peint. C'était un très bon peintre. Et après, il avait son délire surréaliste.
Oui, ça c'est. Voilà. Et puis des idées un peu trop proches de Franco, tout ça que j'aime beaucoup.
Oui, voilà, déjà.
Allez, on va pour les gens qui n'étaient pas là à l'époque où tu es venu. Tu es né où, quand?
Je suis né en Normandie en 1956.
C'est pas ta faute, ça.
Eh non.
Et alors, là, le jour et l'année, tout ça.
Le 9 mars 1956.
D'accord. Donc, ça doit te faire 61 ans par là, parce que
voilà,
moi j'ai 4 ans de plus que toi.
Bientôt 61 ans.
Facile à compter, donc voilà. Et en Normandie, tes parents étaient normands ?
Tout à fait, oui. Mes parents étaient. Je suis fils d'ouvrier, en fait. Mon grand-père était. Mon père était dans le pétrole. Pas dans le pétrin, dans le pétrole, à l'usine, comme tout le monde là-bas. C'était une ville très ouvrière autour de Rouen.
D'accord.
Au bord de la Seine, voilà. Mais moi, j'ai fui un peu la ville ouvrière pour partir.
D'abord, tu as fait l'école là-bas, non ?
Oui, j'ai fait le lycée. En fait, si tu veux, comme tous les mômes, quand on leur a demandé, moi, qu'on m'a demandé, qu'est-ce que tu veux faire métier.
T'as pas dit président de la République.
Non, quand j'avais 12 ans, j'ai réfléchi 5 minutes et je me suis dit, je vais faire cuisinier, comme ça j'aurai chaud et j'aurai toujours à manger.
C'est pas con.
C'est pas con. Alors, mon père m'a inscrit dans une école de cuisine. Mais j'étais un peu trop jeune, j'avais 13 ans, il fallait avoir 14 ans, il fallait attendre une année. Et quand l'année est arrivée, la règle a changé, il fallait avoir 16 ans. Alors attendu. Bon, et en attendant, il s'est passé un truc, c'est que j'ai été visiter un salon, le salon de Rouen, où il y avait tout un tas d'artisans, et il y avait une vitrine qui était la vitrine de l'école hôtelière, où j'ai halluciné, je suis resté... pantois devant cette vitrine, parce qu'il y avait des tas de gâteaux décorés. Des choses en sucre, des sculptures en sucre, magnifiques. Et j'ai dit à mon père, mais c'est ça que je veux faire. Est-ce que je pourrais pas prendre des cours de dessin pour être bon décorateur à l'école de cuisine ? Alors, j'ai pris des cours de dessin et peinture, et j'étais tellement bon dans les cours de dessin qu'en fait, il m'a inscrit dans une école de peinture. Et
d'accord.
Ouais, c'est grâce à la cuisine que je suis devenu peintre.
Mais c'est super, ça.
Bon, la peinture, c'est un peu de la cuisine.
Bah, tout
l'atelier
à fait,
ouais. Du peintre, ce sont des émulsions,
D'accord.
Des tas d'outils qui ressemblent à la cuisine.
Et tu as commencé par faire juste des esquisses? Comment ça se passe?
J'ai commencé à peinture à 13 ans, très jeune.
Oui.
Je prenais des cours pour adultes.
Oui.
Et à 16 ans, je suis arrivé à Paris dans une école de peinture et j'étais tellement en avance sur les autres élèves que la directrice m'a mis au musée du Louvre pour que j'apprenne les techniques anciennes.
Merci.
Et j'ai progressé très vite.
Ça s'appelle l'école du Louvre?
Non, l'école du Louvre, c'est pour apprendre la restauration et tout ça. Moi, j'étais copiste au musée du Louvre.
Si tu faisais de la bouffe, c'était un peu la restauration. C'est, c'est pas la même.
Non, j'étais copiste au musée du Louvre. C'est-à-dire, on me donnait la possibilité d'être devant un tableau de maître dans les allées où il y a les visiteurs. Mmh. Et c'est une étude personnelle. Il n'y a pas de professeur. On est tout seul. À l'époque, en 72, donc c'était... Il y avait 20 places seulement, donc j'ai eu la chance d'être accepté. Il y avait 20 places pour des Français et 20 places pour les étrangers. C'est un petit peu changé maintenant. Et donc là, je suis resté 2 ans à peindre le matin les grands maîtres. J'ai appris quand on fait c'est une copie, mais ce qu'on copie, c'est pas tant l'image, c'est la matière. Donc ça sert à rien de faire une copie, de prendre une photo, par exemple. C'est pas pareil. Là, ce que j'ai appris, c'est la matière, les fonds, la façon des anciens.
Et si t'es tout seul, quand même, pour apprendre la matière.
Oui, mais on se documente aussi.
D'accord.
Voilà, mais le principal, c'est l'observation.
Parce que je suppose que la façon de faire les mélanges de peinture,
oui, mais
ça
tout
se
ça,
trouve
je
pas en regardant.
Je l'avais déjà appris avant. avec la directrice.
Donc, t'as vu la Joconde, t'as vu tous ces trucs-là, quoi.
Ah, tout. J'ai passé des heures et des heures à peindre et à regarder tout ce qui
alors,
tous les tableaux.
Christian Bateau, quel est ton peintre préféré? Ou à l'époque, qu'est-ce qui t'a vraiment...
En fait, il y en a plusieurs, c'est comme dans la musique. On aime des genres, des époques, ça varie. J'aime beaucoup la peinture pré-raphaélite, c'est une peinture... De toute façon, toutes les peintures du 19e, ça, c'est plus... C'est ce que j'aime. Et puis... J'aime aussi tous les peintres contemporains qui dérivent de cette famille de peintres, donc assez réaliste, sans aller dans l'hyperréaliste, assez réaliste, avec beaucoup d'onirisme, de poésie, de surréalisme, entre le rêve et l'imaginaire, et c'est la peinture que j'essaye de créer quand je fais mes créations.
Quel est le premier tableau que tu as créé, toi?
Sans
copier un tableau que toi, tu as inventé.
Je ne saurais pas dire, parce que je vais avoir 12-13 ans, tu vois, je ne sais plus. Moi.
Et qu'est-ce qui est devenu ce tableau, le premier?
Les premiers tableaux, je les donnais, je les offrais dans ma famille.
Pas de regret de...
Non, au début, quand on peint, quand on n'a pas envie de se séparer des... Ouais, on n'a pas envie de les vendre quand on est jeune, voilà. Donc quand on est jeune peintre, ça fait ça à tout le monde, on n'a pas envie de s'en séparer, alors on les offre. Puis un jour, on en vend un, et puis...
Quel est le premier que tu as vendu, t'en souviens?
Je m'en souviens pas bien, mais je sais que quand j'avais 15 ans, j'avais eu le premier prix de la ville d'Elbeuf, et quand on a le premier prix, le tableau est acheté. Et c'était une belle reconnaissance, quoi.
Moi, le premier que j'ai fait, il était à jeter aussi. Mais... Non, parce que moi, je peins aussi, je dessine... Et je fais de la musique, pour moi c'est un peu...
C'est complémentaire, de toute
est-ce
façon.
Est-ce que tu écoutes la musique en peignant?
Eh bien, soit j'écoute la musique à fond, ou soit c'est le silence complet.
Ça, c'est pour la création, plutôt?
Alors, quand j'écoute de la musique à fond, vraiment, je mets à fond, j'aime bien le rock. Moi, c'est que j'ai la patate, quoi. J'ai envie de... Et quand je suis plus en recherche, à une espèce de méditation, la peinture, c'est un espèce de yoga. Là, je suis dans le silence complet, mais pendant des mois aussi.
Est-ce qu'on crée plus quand on est gay ou quand on est triste?
Oh, c'est pareil, c'est pas le problème.
Allez, on va écouter un premier morceau que tu as choisi, en hommage à Léna, qui est là, d'ailleurs. C'est « Oh, Pretty Woman ». C'est joli, hein?
C'est magnifique.
Mais on te l'a dédié, Léna, cette chanson. Oh, pretty woman, using the rising sun. You say your cheap change in powder ain't gonna help you numb. 'Cause you're a pretty woman right down to your toes. What's the matter with you? Can't make you love me.
what's the matter with you? Can't make you love me, no matter what I do.
C'était John Mayall. Alors, Goss, c'est ton vrai nom ?
Mon
parce
vrai
que ça
nom,
fait un nom de peine. Ça,
ben non, mon vrai nom, c'est Goss, en fait, mais avec un E. Et mon nom d'artiste, c'est Goss, sans le E.
D'accord, et pourquoi ?
Mais à la radio...
Pourquoi t'as enlevé le E ?
Mais j'ai transformé le nom commun en nom propre, quoi. Comme ouais, ça.
D'accord.
C'est parce que quand je signe à la main, j'oublie le E. Puis, bon, voilà.
Ouais, ouais, puis c'est peut-être plus...
Je fais sans E.
Plus rapide, hein.
Voilà.
Donc, tu ne peux pas faire d'omelette, alors.
Voilà.
Sans eux. Tu as eu des frères et des sœurs ?
Oui.
Tu es encore ?
Oui, bien sûr.
Alors, ils font
j'ai
quoi ?
J'ai deux grands frères et une grande sœur.
Ils font quoi ?
Ils sont dans les arts, j'ai mon grand frère Daniel qui s'est mis à peindre vers ses 60 ans,
ah bon ?
Justement. Il a 6 ans plus que moi. À la retraite, il s'est mis à peindre. Il peint bien.
D'accord.
Sinon, il était dans un boulot à la sécurité sociale ou quelque chose comme ça. Et ma sœur aussi s'est mise à me faire de l'aquarelle un peu tard, mais bien aussi. Et sinon, je suis le seul dans la famille à être dans les arts.
Dans les arts, tout à fait.
Il n'y avait pas de...
Et donc, tu vis avec une musicienne, c'est ça ?
Eh oui, depuis 32 ans.
32 ans, Lily.
Lily.
Elle joue que du violon ?
Elle joue, du violon, des percussions, elle chante et à l'époque,
elle
faisait
partie,
un peu d'accordéon.
Ouais, elle fait partie de la famille Benaïm, donc.
Tout à fait.
Ça. On écoutera à la fin un morceau de Grand-mère Funibus. Ça, c'est toute la grande période folk.
Exactement.
Où il y avait...
Les pionniers du folk.
Ah, tout à fait, ouais. J'ai eu la chance de connaître tout ça avec tous les festivals
voilà.
À Concorde.
Super. Tout à fait.
Super. Bon alors, décorateur. Tu décores quoi ?
Eh bien, je décore tout ce que peut être décorable. Dans la décoration, plus dur, c'est pas de faire les décors, c'est de trouver les clients. Donc, je fais du décor de théâtre, du décor dans des maisons, donc des peintures murales.
Alors, comment les gens te contactent déjà ? Qu'est-ce qu'il faut faire pour... Est-ce que tu as
c'est
un
la
site,
grande question. Oui, j'ai un site.
Où les gens peuvent voir ce que tu fais.
J'ai appris à faire des sites pour faire le mien, donc une dizaine d'années.
Ouais.
Et c'est une vitrine par laquelle les gens me trouvent.
Alors tu peux le donner.
le nom du site, c'est www.gosse-artiste-peintre. .com.
C'est un peu dur à retenir. Mais...
C'est un peu dur à retenir. Ouais. Sinon, sur un moteur de recherche, on met gosse, GO2S, peintre.
Ouais.
Et on tombe dessus.
Super. Très bien. Et là, comment se passe? Les gens, ils te disent, bon, j'ai vu votre truc, je voudrais être dans ce style-là, ou comment? Oui,
mais ça, souvent, ce qu'ils veulent, les gens. La plupart du temps, les gens ne savent pas ce qu'ils veulent et ils connaissent pas la peinture murale. Souvent, c'est la. Ils savent pas comment s'y prendre, ils savent pas trouver le peintre. Alors, souvent, ils demandent à un peintre, et le peintre sait pas faire aussi grand. Donc, il y a bien un gosse qui fait ça. Donc, ça me revient. Je connais beaucoup d'artistes peintres dans tout le sud-ouest et dans toute la France. Donc, beaucoup de mes collègues me renvoient des clients parce que ils ont envie. Moi, je sais faire grand. Depuis toujours. Quoi.
Et alors, c'est quel style, j'allais dire, parce que peindre sur un mur, est-ce que c'est avec comme quelqu'un qui repeint un mur, c'est quoi la peinture? Parce que là, il en faut
alors,
du wagon, là, ce
Oui, c'est pas forcément, j'en mets pas.
C'est pas la peinture à l'huile, c'est quoi?
Non, en extérieur, c'est plutôt la peinture acrylique qui fonctionne.
La même qu'il y a dans les bombes, en fait, non?
Non, pas tout. Alors à fait, c'est pas le même diluant. Dans une bombe, ça sent fort.
D'accord.
Je ne sais même pas ce que c'est. C'est comme les
donc
peintures
pour
automobile.
Donc c'est les pots de peinture, quoi, les gros pots de peinture.
Non, la peinture acrylique, c'est parfait pour l'extérieur, c'est très solide et ça se nettoie à l'eau, c'est parfait. Après, en intérieur...
Le mur, il n'y a plus rien.
Ah non, ça marche très... Moi, j'ai des peintures à...
Quand tu dis ça se nettoie à l'eau, parce que s'il pleut...
Non, une fois que c'est sec, la peinture acrylique, c'est aussi solide. Les peintures de tes volets, ils sont peut-être peints à l'acrylique.
La peinture à l'huile, c'est plus difficile, mais c'est quand même bien plus beau que la peinture à l'eau.
La peinture à l'huile, l'avantage, c'est qu'on peut gérer le temps de séchage. Donc, c'est plus subtil pour aller dans les dégradés et aller dans le réalisme, justement. Mais avec la peinture acrylique, moi, je connais toutes les techniques, on va dire, quand il y a une technique que je connais pas, je l'apprends. Je suis toujours en apprentissage. Moi, je pratique l'aérographe aussi avec la peinture acrylique qui sert à faire des dégradés parfaits. Mais c'est une technique très compliquée, quoi, mais que je maîtrise aussi depuis longtemps.
D'accord. Et tu enseignes ça?
Alors, depuis peu, je fais des stages, c'est vrai, à Beauregard. Plutôt pour des
Beauregard,
gens...
Beauregard, c'est le village, je sais pas si ici il y a un lycée qui s'appelle
lycée
Beauregard.
Oui, c'est le village de Beauregard dans le Lot.
C'est à côté de Concorde, c'est
ça. Voilà.
D'accord.
Et donc je fais des stages à l'atelier, plutôt pour des personnes qui savent déjà maîtriser le pinceau, mais de temps en temps, j'ai aussi quelques débutants, quoi.
Alors là, c'est pareil, tu as un contact, s'il y a des gens qui veulent t'appeler?
Eh ben, faut aller sur mon site, et il y a un petit bouton écrit stage. Je cherche pas à avoir trop de stagiaires parce que je fais beaucoup de choses dans tous les sens. Mais de temps en temps, quand il y a un créneau, je fais un petit stage. Donc c'est quand il y a des stagiaires qui m'appellent, j'organise un stage, mais je cherche pas. Je cherche pas après.
Est-ce que tu as fait des décors pour l'Obubambule?
Tout à fait, parce que voilà, avec mon épouse, on a passé 15 ans dans cette compagnie. Et au début, j'ai même été comédien, bonimenteur. Je remplaçais un petit peu quand il y avait quelqu'un qui n'était pas là. Je faisais le clown et
aussi. Bambule, c'est une compagnie de théâtre
de rue, voilà, qui était basée à Limoges-en-Quercy et
ça
qui a joué.
Plus.
Non, ça n'existe plus depuis beaucoup.
Pas mal d'années, mais elle est partie, non?
Voilà, elle a duré 15 ans quand même, ce qui est pas mal. C'est pour un groupe où il y avait plus d'une douzaine de personnes. Et qui a tourné dans toute la France et l'Europe, des très beaux spectacles de rue, des déambulations. Et là, je participais au décor aussi, aux affiches, à tout ce qui est visuel et aux accessoires.
Aux accessoires, oui, parce qu'il y avait des masques,
des
trucs comme ça.
C'est intéressant. J'ai même fabriqué des violons médiévaux, qui marchent, avec tech. Mais voilà, décor de théâtre.
Allez, on va passer un morceau de musique. On va écouter donc Ben Harper. Voilà, monsieur qui a démarré dans la rue, dans le métro, quoi. Donc, c'est ça, non?
Oui.
Et le morceau s'appelle Find It, ça veut dire découvert. Find, c'est trouvé,
ce
donc découverte, on va dire, que va nous envoyer notre ami. Ça, c'était Ben Harper avec tous ses arrangements spéciaux. Donc, il faut rien toucher au son. C'est lui. Il voilà. faut écouter sa façon, lui, de faire ses arrangements. Alors, on en était, on a dit décorateur, on a parlé de ça. Oui.
Oui.
Trompe-l'œil. Alors, trompe-l'œil, c'est faire des trucs, en fait, faire croire aux gens que c'est vrai alors que c'est pas vrai. Quoi.
Voilà.
C'est un comme les gâteaux en trompe-l'œil.
C'est un jeu de mots pour les yeux, quoi.
Ils font des gâteaux en trompe-l'œil, c'est-à-dire tu crois manger un baba au rhum alors que ça a l'aspect, mais c'est de la bouillabaisse, par
c'est
exemple.
C'est un peu une blague, ouais, un trompe-l'œil. Ouais. Hein. Une blague pour les yeux.
Ouais, mais il faut être là hyper réaliste.
Oui, pas forcément. Il faut être, on va dire, figuratif, réaliste, plus c'est réaliste, mieux ça
c'est
marche.
C'est quoi la différence entre hyper réaliste et réaliste?
Hyper réaliste, c'est vraiment aussi, c'est photographique. Quoi.
Voilà, le trompe-l'œil, c'est quand même faire croire qu'il y a par exemple une fenêtre alors qu'il n'y en a pas.
Voilà, après, c'est, l'hyper réalisme, c'est une technique, c'est très poussé, quoi. Et c'est une histoire de temps, en fait. Après, si on y passe beaucoup de temps, on va vers l'hyperréaliste si on connaît la technique. Ben donc, moi, je la pratique.
Il y a beaucoup d'hyperréalistes qui sont faussaires, en fait.
Pas forcément.
Ouais, non, mais il y en a qui sont faussaires, qui ont copié des tableaux, qu'ils ont vendus. Et même les experts sont tombés dans le panneau.
Ah oui, il y a des mecs qui sont forts.
Ils sont forts.
Ouais, ouais, c'est de la technique, là.
Ça s'apprend avec qui, ça? Parce qu'il faut apprendre avec des mecs pointus, là. Je sais pas.
Les techniques, ça s'apprend avec des bons profs, mais aussi, justement, seul aussi, une fois qu'on a compris justement, moi, j'ai appris seul au musée du Louvre. Et ça fait 40 ans que je continue à apprendre, parce que quand on tombe là-dedans, c'est sans fin, il faut plusieurs vies pour tout apprendre. Moi, c'est ce que je continue à apprendre.
Quand tu bossais au Louvre, quand même, quand tu faisais un truc, il y avait quelqu'un qui te supervisait pour
Non, non, c'est une étude personnelle, complète. Ouais, ouais. Ça a toujours été comme ça date de Napoléon. Les Ingres étaient copistes au Louvre,
Courbet... On ne peut pas savoir alors si c'est bien ou si c'est pas bien, il n'y a que toi qui le sais, en fait.
Si on est copiste au Louvre, c'est que c'est bien, de toute façon.
D'accord.
C'est tout. Après, voilà, c'est
une possibilité. Si on te met là, c'est que tu as déjà
voilà,
les qualités.
Voilà, ouais. D'accord. Même plus.
Ah, mais alors, tu es quand même. Ouais. C'est une référence. C'est
carrément.
Mais c'est bien, super. Alors, donc, trompe-l'œil, tu en fais où? Dans les rues?
Alors, c'est encore la même histoire, là. Moi, je ne sais pas trouver mes clients. C'est eux qui me trouvent. Et les plus grands, les plus beaux que j'ai faits, c'était une agence de pub. Qui me fait venir à Paris de temps en temps. C'est une agence qui fait du street art. Et
l'art de rue.
Voilà, l'art dans la rue.
Qui connaissent pas, ouais.
Et donc, j'ai fait. Le plus grand que j'ai fait, c'est un grand tableau qui fait 300 mètres carrés. Donc, ça fait. Vous imaginez le mur d'une maison sur 5 étages, 23 mètres de haut et 15 mètres de large.
Tu as mis 14 ans pour le faire ou quoi?
Alors, c'est un défi, c'est une performance. Là, ce trompe-l'œil, c'est une performance. Il fallait que je le fasse en 3 jours. Alors, je l'ai fait en 4 jours parce qu'il y a eu un jour de pluie. Mais en fait, donc, c'était vraiment 3 jours. C'est des jours à 16 heures par jour. Hein. C'est un peu les 24 heures du mois quand je fais une performance comme ça.
Il faut quand même faire des plans avant.
Oui, bien sûr. Puis là, je te parle de vraiment cette grande peinture que j'ai fait. C'est spécial. La performance rapide, c'est un peu un spectacle aussi. C'était un coup
de performance, ça veut dire que tu fais un truc, il y a des spectateurs, et voilà, tu fais.
Voilà, dans la rue. Bah, les spectateurs, ils sont dans la rue, c'est comme le spectacle de rue, là. C'est une peinture publique. Et je fais aussi, donc, des anamorphoses qui sont.
Ah, ça, je sais pas ce que c'est.
Alors, une anamorphose, t'as peut-être sûrement déjà vu ça sur Internet, il y a un gars qui fait ça super. Enfin, il y en a plusieurs, mais il y en a un qui est assez connu, qui fait à la craie, et ça fait des espèces de vides, voilà, ouais, sur les trottoirs.
Ah, oui,
donc, on m'a demandé de faire ça. C'est une pub pour Microsoft que j'ai réalisée devant l'Opéra Garnier.
D'accord.
Et c'était donc... là, il voulait une image de l'ordinateur qui venait de sortir. Mais donc, en anamorphose, c'est-à-dire qu'il y a un endroit particulier où on met une croix, où là, on voit l'objet... réaliste, et si on fait le tour, il est complètement déformé, le dessin, il part à 25 mètres derrière, et ça ressemble plus à rien. Et quand on revient à l'endroit, quand on bouge un peu, il y a un effet de 3D, qui est assez hallucinant. C'est le plus dur des trompe-l'œil.
Ouais, ça,
c'est un effet.
Alors, est-ce que ça rapporte, ça?
Non, parce que
sous, quand même, hein.
Oui, mais j'en fais pas assez. J'ai dû en faire. Si j'en faisais toutes les semaines, ça serait super.
Un truc immense, par exemple, sur un mur, là, je veux dire, ça se paye. Ça,
bien sûr, mais seulement faudrait.
Comment ça se paye si c'est pas indiscret?
Très cher.
C'est-à-dire une idée. N'aie pas peur, personne nous écoute à l'émission. Non, un ordre d'idée, quoi.
Ça se paye 7 500 € pour 3 jours, par exemple.
D'accord.
Mais c'est vraiment un défi. Ils n'ont pas trouvé sur Paris quelqu'un pour le faire. Ils m'ont trouvé, moi, tiens, grâce à mon site internet.
Que tu peux rappeler, ton site internet, www.
Ouais, le mieux, c'est d'aller sur un moteur de recherche
si
et mettre gosse peintre.
Sinon, ça fait quoi? www.gosse.artiste.
Ah ouais, tu vois, je me trompe.
Voilà.
gosse-artiste-peintre, c'est compliqué. Hein.
Point com. D'accord. Trompe-l'œil. Eh bien, ça, ah ouais, est-ce que c'est ça que je voulais demander? Parce que nous, on est allés jouer à Berlin souvent. Et Berlin, c'est. Il y a des artistes partout. T'es déjà allé là-bas?
Non.
Alors là, des trucs de rue, des machins, il y en a partout, partout. Ça, et tous les gens du monde, moi je trouve que c'est une ville extraordinaire. Ça. Tu devrais y aller.
Je devrais y aller, oui.
Ah donc, Anamorphose, ça j'ai compris. Alors, illustrateur, donc illustrateur quoi? De BD?
Eh bien j'ai commencé l'illustration dès le début, après le Louvre, quand j'avais 20 ans. Parce que j'avais fait une école d'art et de publicité, donc pour être illustrateur et affichiste. Donc c'était ça, c'est le métier que j'ai appris. Et comme j'étais le seul de l'école à faire de la peinture à l'huile, j'ai aussi appris la peinture à l'huile. J'ai toujours fait les deux, la peinture à l'huile et l'illustration. L'illustration est peut-être un peu plus alimentaire. Donc j'ai commencé chez Hachette à faire des livres d'école, des livres de maths. Après, j'ai travaillé 6 ans pour la revue Science et Vie. Donc, je faisais les grandes pages en couleur, les éclatés de sous-marins, des choses très, très techniques. L'idée, c'était que ces articles, le dessin, l'illustration, aidaient à la compréhension et devaient donner envie de lire l'article, qui n'était pas toujours facile. Et c'était passionnant, je fais ça 6 ans. Après, j'ai fait l'illustration pour enfants avec les deux Coqs d'Or et Hachette, où là, c'était des créations. J'ai fait un livre de magie aussi, avec Hachette, qui a bien marché. Donc ça, c'était dans les années 80, tu vois. Et un peu de publicité, des choses comme ça. Bon, et ensuite, j'ai arrêté l'illustration pour me retourner vers la peinture à l'huile, où j'ai plus de liberté. Parce que les illustrations sont des commandes. C'est intéressant, la commande. J'ai travaillé pour une idée, faire l'image d'un texte, autour d'un texte ou d'une idée. Ça m'a toujours plu aussi. Mais bon, après, faire aussi ses créations, cette liberté, j'en avais besoin aussi. Donc, je fais les deux.
Et là, comment ça se passe? Parce que nous, en musique, on est intermittents. Comment ça se passe pour les...
Ah, les intermittents du pinceau, ça n'existe pas.
Non, mais c'est comment... Tu te démerdes. Comment ça fonctionne?
Ça fonctionne pas.
Je veux dire, pour te faire assurer...
Voilà, pour être en règle, pour être... Il y a...
Et puis, comment ça se passe? Est-ce que tu as le droit de le faire?
Il y a un organisme qui s'appelle la Maison des artistes, qui est la Sécurité sociale des artistes auteurs et qui gère la sécurité sociale et la vieillesse. Donc faut que je cotise depuis 76 à cet organisme pour être pour pouvoir, quand on travaille pour des boîtes comme Hachette, on est obligé d'avoir ce
registre
statut
du commerce. C'est
du tout un artiste peintre, c'est un auteur, il fait pas partie de la chambre des métiers ni de la chambre du commerce.
Comment?
C'est profession libérale comme un avocat. Moi, j'ai ce statut, j'ai un numéro de Siret, une petite entreprise, moi tout seul.
Eh bien, c'est bien.
Depuis 76.
Et ta petite entreprise, je ne connais pas la crise?
La crise deux fois, des fois. Mais...
Je sais. Surtout après un bon punch. Allez, on va repartir sur Ben Harper, qui nous chante Homeless Child, c'est-à-dire l'enfant qui n'a pas de maison. Thank you. Eh oui, l'enfant sans maison. C'est le cas de... Qui c'est qui nous a dit là, qui vivait dans une roulotte, toi, là?
Oui.
C'est qui?
Mon fiston, il vit dans une roulotte. Ah bah, faut dire que...
Il est musicien aussi?
Il est musicien, mon fils, il a 23 ans. Et il nous a vus, mon épouse et moi, et la compagnie au Boubambule. En 2000, nous avons fait deux spectacles, deux tournées en roulotte. Et lui, il avait 8 ans, il était... On a tourné un documentaire là-dessus. Et bah, il avait ce rêve-là de voyager un jour, peut-être. Et puis il l'a fait. Il a fait.
C'est ce que
il
fait
a trouvé sa petite roulotte.
Nilda Fernandez, il fait ça, non?
Tout
c'est
à fait.
Bien, c'est super, ouais. Moi, je veux dire.
Et puis, il joue sur les marchés. Il a un groupe à Toulouse, un autre un peu plus loin. Il est un musicien. Comme,
il s'appelle Goss aussi?
Tout à fait, Goss. Johan.
Johan Goss, super.
On le voit jouer, des fois, il joue à Villefranche, il joue, il est vers Albi et Castres en ce moment.
D'accord.
Il se dirige vers les Pyrénées avec ses trois ânes, sa mule, sa copine, son chien, alors, sa poule.
C'est quatre ânes alors, tu veux dire.
La mandoline, il joue la mandoline et du banjo et de la batterie, du piano, il sait tout jouer.
D'accord. Bon. Et toi, tu fais de la musique, toi?
À une époque, je jouais du saxo, un peu de piano, un peu de guitare, mais je suis pas foutu de me souvenir d'un morceau. Alors, j'aime bien improviser, voilà, mais je sais pas jouer avec les gens, je joue tout seul dans mon atelier, pour me dégourdir les doigts.
À ce propos, on a perdu, là, le leader du mystère des éléphants, là.
Oui,
Je les avais reçus ici.
Tout à fait, ouais.
D'un coup, crise cardiaque.
Ouais. Ça a choqué tout le monde.
Ah ouais, ouais, bah c'est... Mais en ce moment, ça déménage, là.
Oui, ouais.
Mais il y a des périodes comme
vieux
ça.
Aussi, hein. Oui, peut-être.
Non. Voilà, il n'était pas vieux.
Non.
Mais bon, c'est comme ça, si tu veux. Alors, bande dessinée, est-ce que tu as déjà fait ça?
Eh bien, j'aurais aimé, j'ai tâté un petit peu la bande dessinée, mais il faudrait faire que ça. Et puis, il faut surtout avoir un très, 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 très bon scénario.
Mais moi, ça me plairait, ça en dehors, c'est très sérieux. De t'écrire un scénario de bande dessinée, parce que moi je connais beaucoup de tout. Uh-huh. Moi, toutes mes pochettes sont des dessinateurs, des machins, et ça me plairait bien.
J'ai fait un peu de dessin humoristique avec un auteur qui était branché humour noir. Et il y a quelques. Bon, quand je travaillais à Sciences et Vie, je travaillais avec Claude Serre, qui faisait des illustrations aussi pour Sciences et Vie. Donc, quand j'ai fait ces dessins humoristiques, c'était un peu à la Claude Serre, quoi, voilà. Après, le scénario de bande dessinée, c'est toute une histoire, parce que c'est un peu comme tourner un film. Faut du cadrage, faut de l'action, c'est intéressant.
Comme une chanson, en fait. Hein,
voilà, ouais. Après, faire que de la BD, moi, faudrait que je fasse que ça, quoi.
Ouais. Moi, j'ai eu la chance d'avoir une pochette avec Gilles, je sais pas si tu connais, qui jouait. Qui a écrit La Tour. Lui faisait les décors du dessin, Gilles. Ensuite, Volinsky, forcément, mon dernier disque. Gégé, Gérard Cousseau, qui dessinait dans Spirou, qu'on est toujours copains, il m'a fait plein de trucs. Et Pierre Sanson, on a été exemptés définitifs, tous les deux. On était deux sur 600 exemptés définitifs, P5. Tu vois. C'est là où on s'est connus. Et lui, il dessinait dans Flux Glacial, et tout ce truc-là. Quoi.
Ah, toi aussi, t'étais P5.
Inapte à la vie en collectivité, tendance homosexuelle, tendance suicidaire. Enfin, bah, c'était tout ça. Donc, en cas de guerre, même pas dans les bureaux. T'as.
Voilà.
Qu'est-ce que tu en penses de cette guerre, toute cette merde qu'il y a à l'heure actuelle, et la politique et les machines? Ça n'a jamais été aussi pire que ça, j'ai l'impression.
Oui, mais moi, j'ai l'impression que depuis... Tu vois, quand je travaillais dans les journaux, là, il y a 30 ans, on dénonçait des choses qui arrivent maintenant. Mmh. Par exemple, moi, je m'occupais pas d'actualité sur politique, mais je m'occupais pas mal d'écologie, de dénoncer à l'époque, c'était les marées noires, la couche d'ozone, il y a 30 ans, même plus, quoi. Et on nous écoutait pas plus que ça, pourtant.
On disait, ça vient gros
journaux,
hein,
tu vois. Même pas. Et maintenant, je vois ça, ce qui arrive maintenant, moi, on le dénonçait il y a 30 ans. Peut-être pas assez fort, pourtant, on mettait le paquet, mais ça passait les gens n'écoutaient pas, ou je sais pas.
Non, mais les gens sont égoïstes. C'est des bouts, c'est dans 50 ans, j'y serais pas.
Ce qu'il faut faire.
Mais c'est ça, hein, un peu. Tu as fait des affiches politiques, non?
Non. À part deux, trois petits dessins comme ça pour des copains, mais pas
mais
vraiment.
Mais plus du côté écologique, quoi.
Ouais, non, les thèmes, moi, la religion et la politique, je mets de côté quand même, parce que.
Ouais.
C'est lourdingue.
Bien sûr. Tu votes ?
Oui.
Et là, tu sais maintenant pour qui tu vas voter ?
Bah, justement, c'est ouais, c'est pas évident, ouais.
Très
bien. Ouais, c'est vrai que comme tu dis en ce moment, il y a.
On sait pas trop.
On sait pas trop, ouais, faut qu'on réfléchisse un peu.
Enfin, si, moi je sais tout à fait pour qui j'ai voté, parce que tout le reste, c'est tous des crapules. Il y a pas.
Bah, c'est ça.
Enfin, ouais, ils vont tous s'en sortir, en plus, c'est ça qui me.
J'ai du mal à parler de ça, ouais.
Ouais, tout à fait.
Ouais. C'est comme la BD, il faudrait faire que ça.
Des pochettes de disques, t'en as fait ?
Oui. De quelques-unes. Oh, une dizaine, une quinzaine, je sais
plus. De qui ?
J'ai fait une pochette de 33 tours pour Francine Rive, qui était une artiste québécoise. Son mari est connu, c'est Hubert Rive.
Ah oui.
Et Francine Rive est jouée avec les Frères Désonnés.
Oui, tout à fait.
Donc c'était un groupe, je connaissais les Frères Désonnés. C'était à Paris et j'ai fait. Donc c'est une artiste qui fait de la musique québécoise à danser.
D'accord.
Mais ça, c'était dans les années 80. Donc à l'époque, on faisait encore des 33 tours.
Ensuite, ça recommence, ces 33 tours-là.
Oui, c'est vrai. Après, des pochettes de CD, j'en ai fait quelques-unes. Ce qui est dommage, c'est que c'est tout petit. Mais j'en ai fait quelques-unes.
C'est le regret
que
j'ai, moi, parce que les vinyles, quand même, les pochettes, c'était extraordinaire. Voilà. Toutes les pochettes de Pink Floyd, le machin, je sais pas.
On passait du temps sur les pochettes. Ouais. Donc, j'ai fait des pochettes pour des amis. Tiens, Serge Bouzouki, Jingo Typical Band.
Ils sont tous passés là.
Voilà.
Et
des groupes locaux et des affiches plutôt pour le théâtre, mais aussi pour la musique. Le conte, le théâtre, les spectacles jeunes publics, parce que j'ai fait pas mal de décors, enfin pas mal, quelques décors dans le côté spectacle jeune public, quoi.
D'accord.
Décors, visuels.
J'avais parlé
et tout ça,
justement des décors sur scène pour de théâtre, tout ça. T'en as fait, alors ?
J'en ai fait quelques-uns aussi, des beaux décors théâtre. Alors, il y a un moment, j'en ai fait un pour Catherine Le Forestier,
la sœur de l'autre con, mais après, je le dis quand même.
Qui est spécialisée dans
et qui est superbe chanteuse.
Le spectacle pour
et
enfants.
Qui d'ailleurs ne parle plus à son frère depuis longtemps.
Donc là aussi, c'était dans les années 90. J'ai fait un décor qui était un peu un trompe-l'œil parce qu'il m'avait demandé ce que j'aime bien étudier, des changements de décor invisibles. Alors là, c'était sur des tournettes. Et c'est dur à expliquer, mais vous voyez, les tournettes, comme quand on va dans les grands magasins où il y a les portes qui tournent à trois battants. Donc il y avait des décors sur des axes et quand les comédiens prenaient chacun une porte, le décor changeait en 30 secondes.
Ouais.
Et la première du spectacle a eu lieu à Soissons et j'avais été très étonné parce que au premier changement de décor, il y avait 300 mômes dans la salle. Ils ont applaudi le décor.
Ah, c'est super.
J'étais content, je ne m'attendais pas à ça.
Ah, c'est chouette, super. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore ? Ben, on n'a pas vu la cuisine. La cuisine. Est-ce que tu as fait des. Parce que là, j'ai reçu plusieurs personnes qui font des bouquins, des gros bouquins de cuisine.
Mais j'ai vu
exemple.
Que tu as reçu mon ami Ploquin.
Ploquin, oui.
Que je connais bien, oui.
Ce jeudi qui arrive, nous allons enregistrer.
Philippe.
Chez un monsieur Garrigue, que je ne connais pas, qui a bossé à la Tour d'Argent. On va manger là-bas et je vais interviewer. Il y aura Philippe et tout ça.
OK.
Et cette émission passera donc le mercredi qui suit. Je devais le faire avant, mais j'avais la grippe. Donc, est-ce que tu as fait des illustrations pour des bouquins de ce style un peu
à l'époque,
parce que tu connais la cuisine, donc.
Oui, j'ai travaillé pour la cuisine de A à Z. J'ai fait des illustrations, justement, hyper réalistes, comment découper le canard. Je sais très bien découper le canard, attention.
D'accord.
Et voilà des illustrations techniques, quoi. Mais pas énormément, mais oui, j'ai fait ça.
D'accord. Parlant de canards, je viens d'apprendre qu'ils sont en train de faire une enquête parce qu'ils ont introduit des canards malades exprès pour pouvoir tuer tous les canards qu'il y avait. Je viens d'apprendre ça ce matin.
Ah ouais.
D'accord. Alors on va écouter un petit morceau de Aston Villa, rock musique.
Voilà, moi c'est la musique que j'aime, c'est ça.
Ah ouais, c'est super, allez, on écoute.
just revolver. If you want blood, you've got it. Grace, okay, computer. Never mind, London calling. Melody, Nelson, yeah. Mellow gold, sticky fingers, dark side of the moon. Without you, I'm nothing. Anky Dory, bad sounds. Velvet underground. I wanna play rock music. I wanna play rock music. Rock music, yeah. Sex, magic, pornography, Led Zeppelin for melancholy. Electric Ladyland. I wanna play rock music. I wanna play rock music. Rock music, yeah. I wanna play rock music. I wanna play rock music.
Voilà, Stone Villa, c'est la musique que tu aimes.
Oui, moi je suis plus toi rock'n'roll, même si dans ma famille ils sont branchés folk.
Rock bon, et les folk, deux sont
ça
bien,
a toujours
tout
marché. Ouais, j'aime bien le blues aussi.
Ah ouais, bah, la musique. Hein. Mm-hmm. Bon, eh bien, écoute, c'est déjà fini, mais tu reviendras de toute façon, parce que j'ai quand même plein de choses à dire. Merci donc d'être
merci
venu.
Merci à toi.
T'as bien digéré le... les 90 ans de Mamik. Elle est venue, elle était invitée, Mamik. On a fait deux émissions.
Oui, j'ai vu ça.
Et on est allé chez...
J'étais voir votre site et j'ai vu
d'accord, c'est bien.
Un petit peu vos invités.
Donc, merci Julien. Super, très content de te connaître. Donc, on va se voir plein de fois, je suppose. Et quant à nous, ben, la prochaine émission, je pense que ça va être avec M. Garrigue. Justement, on va aller dans son restaurant avec Philippe Ploquin. Donc, je vous en dirai plus quand j'en saurai plus. Voilà. Merci. Et on termine en écoutant, forcément, J'ai parti de la maison. Grand-mère Funibus Folk. C'est un des groupes qui a été le plus connu dans tous les festivals folk et tout ça.
Les années 70, 80.
À l'époque du Grand Rouge, de justement Rosine de Peyre et Radicelle, nous on était aussi, et Colombe, et les frères Ben et Lily et tout ça. Voilà. Eh bien, grand-mère Funibus Folk, bonne semaine et ciao. Au revoir.
Merci.
me to know that.